Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour, vous écoutez Graphite sur 94.9 et graphite.net. Je suis Stéphane Poinsard, je suis en direct du studio avec 4 étudiants de l'Université technologique de Compiègne, Romain, Martin, Clément et Elliot. On se retrouve pour des émissions autour du cours WE1 Questionner le web de l'UTC. Les étudiantes et étudiants viennent y présenter le résultat de leur recherche du semestre, articulé autour de questions sociotechniques portant sur le web. On commence avec la première intervention sur la réparabilité, et l'obsolescence programmée. Je passe la parole à Martin et Romain pour nous en dire plus.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on vous parle de décroissance, de low-tech et de maintenance informatique. Non pas comme des freins au progrès, mais plutôt comme des pistes à explorer pour construire un futur plus durable. À partir de notre cours et d'un article de l'association Picasoft, nous allons aborder ensemble les grandes idées autour de ces sujets.
Donc, afin de présenter le principe de décroissance, donc on va commencer par définir ce qu'est la croissance. C'est défini comme l'augmentation continue de la production de biens et de services, donc souvent mesurée par le PIB, et qui pousse à consommer toujours davantage et stimule l'économie. Donc c'est un concept qui découle du capitalisme. Ce dernier est constitué de 2 axes distincts, la production et la consommation. Donc en effet, le capitalisme productivisme repose sur la concurrence entre producteurs. Pour être le meilleur, il faut produire plus et plus vite. Quant à lui, le capitalisme consumérisme est fondé sur une consommation des ressources, donc qu'elles soient matérielles ou énergétiques, qui est toujours plus forte. Seulement, avec cette croissance vient forcément le progrès. Donc on finit par développer des moyens pour produire plus vite et pour moins cher afin de toucher le plus de consommateurs. Résultat, les objets se multiplient et se spécialisent. Par exemple, on pourrait utiliser le même couteau pour couper du beurre, couper du pain, couper de la viande ou du fromage. Mais nous, consommateurs, on préfère acheter des objets certes très pratiques et efficaces, mais qui sont fondamentalement pas vraiment nécessaires et qui découlent directement de la croissance du capitalisme. Donc on en arrive à un stade où les possibilités de choix sont presque infinies et une professionnalisation de l'aide à la consommation est obligatoire afin d'aider les consommateurs à choisir, par exemple par le biais de la publicité. Les produits achetés sont de plus en plus complexes, avec par exemple l'intégration du numérique, ce qui a pour cause de réduire la convivialité et la soutenabilité des outils. C'est-à-dire, on ne sait plus comment ces objets fonctionnent, on ne sait donc plus comment les réparer. On finit donc par réduire la durée de vie des produits et accroître leur nombre et donc la consommation des ressources. Donc, maintenant qu'on a défini la croissance, on peut aborder donc le concept de décroissance, donc en s'appuyant sur le livre « Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance » de l'économiste Timothée Parik, écrit en 2022. Donc pour lui, il existe 2 options qui peuvent faire suite à la croissance. Premièrement, la post-croissance, qui est définie comme une économie stationnaire, dans laquelle la nature est intégrée dans les décisions et les ressources sont partagées équitablement entre tous afin de garantir une harmonie sans croissance. Donc le deuxième successeur, c'est bien évidemment la décroissance. Donc il la caractérise comme une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifiée démocratiquement, dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être.
Maintenant, nous allons définir ensemble la low-technisation et pour cela, il faut d'abord expliquer les concepts de soutenabilité et de convivialité. La soutenabilité environnementale s'appuie sur le fait de ne pas nuire à la planète. Les outils sont conçus afin de respecter les limites environnementales lors de leur fabrication, leur utilisation et leur destruction. La convivialité d'un objet représente quant à lui sa capacité à être utilisé par un grand nombre d'utilisateurs quand ils le veulent de par sa simplicité technique. Dans notre cours, nous définissons la low-technisation comme un processus consistant à rediriger l'invention et l'innovation pour négocier le spectre fonctionnel et la complexité technique des objets afin de créer des outils plus soutenables et conviviaux techniquement. C'est-à-dire, cela consiste donc à changer la direction de l'innovation et de la faire aller vers des outils plus responsables et plus simples. Pour arriver à ce stade, il faut questionner le processus de conception des objets, en réduisant par exemple la complexité, en limitant les performances, en remplaçant les ressources rares, ou bien en modifiant le processus de fabrication, ou encore en prenant en compte la recyclabilité. Mais modifier leur processus de conception, c'est aussi permettre une réparation ultérieure de l'objet, et donc d'augmenter sa durée de vie. Par exemple, une voiture low-tech serait simple, légère, peu consommatrice, facile à réparer, sans outils spécialisés, et partagée. pour des déplacements limités au nécessaire.
Nous avons désormais abordé les points essentiels à la compréhension de l'article « La maintenance informatique, une pratique militante » publié le 19 avril 2023 par Picasoft, donc une association étudiante de l'UTC, qui défend une approche respectueuse de la vie privée et de la liberté d'expression dans le domaine de l'informatique. Donc cet article expose à quel point les tâches de maintenance sont des actes de dévouement et fait le parallèle avec des causes féministes. La première partie de l'article porte sur les appareils informatiques et leur maintenance. Une tâche fastidieuse et ingrate que bon nombre d'utilisateurs évitent par manque de connaissances ou de temps. Cependant, si cette tâche n'est pas effectuée, les problèmes s'accumulent et dégradent nos outils numériques. Résultat, on écourte la durée de vie de nos appareils. Or, les fabricants n'influencent pas non plus positivement leur durée de vie. En effet, Picasoft met en lumière dans son article que les fabricants pratiquent l'obsolescence logicielle qui vise à faciliter l'apparition de dysfonctionnements. Pour introduire ce concept, nous vous proposons un extrait audio du 10 novembre 2022 tiré de la radio France Culture, animé par Guillaume Herner. Il reçoit Thierry Libar, conseiller au Comité économique et social européen et auteur du premier texte européen sur la lutte contre l'obsolescence programmée.
Est-ce qu'il existait véritablement une obsolescence programmée ?
Alors, sur la filière électroménager, ça n'a pas été démontré. On l'a démontré clairement sur certains types de produits. Enfin, les plus connus, c'était les ampoules, le nylon, les imprimantes. Mais dans le même temps, les fabricants nous disaient que ce n'est pas contre le consommateur. Ce n'est pas une pratique d'auto-sabotage de nos produits. Si on prend un exemple typique, l'imprimante, qui a été le cas démontré, où là, à partir d'un certain nombre d'impressions, ça s'arrêtait. Les fabricants d'imprimantes, oui, mais on sait qu'à partir d'un certain moment, ça va se dégrader. Et donc, il y aura des jets d'encre et ça va être un peu épouvantable. Et donc, le consommateur ne va pas racheter un produit à partir du moment où il en sera très mécontent. Donc, on préfère une mort propre. On préfère que le produit s'arrête brutalement. Bon, je vous dis en tout cas ce que disent les fabricants. On n'est pas obligé de les croire. Mais dans tous les cas, avec la loi de 2015 contre l'obsolescence programmée en France, c'est maintenant clairement un délit. Donc l'ensemble des fabricants a compris qu'ils avaient plutôt intérêt à jouer le jeu, d'abord parce que financièrement ça pourrait être redoutable, mais aussi en termes de réputation, ce serait dramatique pour eux.
Retour sur l'article qui souligne ce combat inégal entre l'utilisateur qui tente de préserver son matériel et les géants du numérique qui imposent des limitations pour pousser à la consommation. Sur le long terme, on peut y voir une certaine victoire financière pour le consommateur, adepte de la maintenance, puisque son matériel tiendra plus longtemps. Mais également une victoire écologique, avec un nombre d'appareils achetés réduit, responsable d'un rejet considérable en CO2.
Dans un second temps, Picasoft fait une analogie entre la maintenance informatique et le concept du care. Ce concept est popularisé par la philosophe Juan Tronto, et le définit comme étant l'ensemble des activités qui permettent de prendre soin des autres, de soi et du monde. Ce concept implique une charge mentale importante, prenant la forme d'une pression invisible liée à la gestion constante et à l'anticipation. Par exemple, au sein d'un foyer, il est courant que la femme pense à ce qu'il manque dans le frigo, planifie les repas, prend les rendez-vous médicaux. Toutes ces tâches qui peuvent paraître simples, mais qui en réalité génèrent une charge mentale quotidienne. Cette responsabilité mentale, qui consiste à anticiper sans cesse les besoins de la famille, est épuisante parce qu'elle est constante, invisible et rarement partagée. Toute proportion gardée, Picasoft compare cette charge à celle de la maintenance informatique. En effet, les structures qui proposent des services numériques libres reposent souvent sur des bénévoles dont le travail régulier et essentiel reste souvent invisible. Il est peu cité, rarement remercié ou rémunéré, alors même que les utilisateurs bénéficient directement des améliorations. Cette maintenance est cruciale. Elle évite que des composants électroniques finissent à la benne et polluent la planète. Il est donc important de faire durer nos appareils plutôt que de chercher à les innover. L'article conclut sur « La maintenance peut constituer un levier de décroissance si on en fait une pratique militante, en réfléchissant aux usages, en sélectionnant l'essentiel, en pensant à l'inclusivité, en choisissant des outils sobres, faciles à maintenir et du matériel moins obsolescent. »
Dans la partie qui suit, nous allons mettre en relation notre cours et l'article. Nous avons vu clairement les concepts théoriques de la décroissance et de la lotéquisation, tandis que l'article de Picasoft nous a montré un aspect plus réel de ces concepts en mettant en lumière la maintenance informatique, qui est l'un des gestes quotidiens essentiels qui fait comprendre l'importance de la décroissance. Maintenant, la question est de savoir comment agir pour amener à la décroissance. La première chose est de soutenir ceux qui essaient de rendre ces pratiques possibles, Il faut donc s'intéresser et aller voir ce que font les acteurs de cette nouvelle pensée du numérique. Par exemple, HOP, HOP, Halt à l'obsolescence programmée, est une association qui lutte contre les types d'obsolescence. Ils publient des listes de produits durables, mènent des actions juridiques contre les fabricants et avertissent les consommateurs. Un autre exemple serait la plateforme collaborative iFixit, qui propose des tutoriels et des fiches de réparation gratuitement et accessibles à tous. Ils permettent donc de trouver le produit concerné et de voir s'il peut être réparé ou quelles pièces sont remplaçables. On peut encore citer Framasoft ou Picasoft, qui contribuent à sensibiliser les utilisateurs afin qu'ils puissent prendre une certaine autonomie face aux géants du web et du numérique.
La décroissance repose donc autant sur des choix politiques, comme ceux en faveur de la réparabilité ou de l'interopérabilité, que sur les actions des associations, des collectifs et de chacun d'entre nous. Chacun a un rôle à jouer dans la décroissance de notre société. On conclut ainsi ce passage à la radio avec quelques habitudes du quotidien pour réduire son empreinte carbone et sa consommation de ressources. Premièrement, adopter une consommation responsable, c'est acheter moins, mais mieux. C'est-à-dire privilégier la qualité et non la quantité. Cela peut paraître plus cher, mais sur la durée, on y gagne économiquement et on limite la consommation de ressources. Penser à réparer et réutiliser est aussi une bonne habitude à prendre, au lieu de chercher la facilité et surconsommer. On peut également aborder les sujets des appareils ménagers et du numérique. Penser au reconditionner, que ce soit en vendant ou en achetant, et essayer de garder ces appareils le plus longtemps possible.
Merci pour cette intervention. Quand on pense à la décroissance, on peut s'imaginer qu'elle implique uniquement des sacrifices. Mais vous nous avez montré que cela peut aussi vouloir dire vivre dans un monde avec des produits plus durables et vivre mieux. On continue avec le numérique au service de la transition écologique, point d'interrogation, avec Clément et Elliot. Clément et Elliot, vous avez la parole.
Merci. En tant qu'élève ingénieur en 2025 à l'UTC, nous sommes particulièrement sensibilisés à la question d'innovation et d'écologie. L'école propose notamment le label Ingénierie soutenable, qui vise à former les ingénieurs capables de contribuer à la nécessaire transformation des entreprises, mais aussi d'intégrer les organismes dédiés à la transition écologique ou encore de créer de nouvelles activités en adéquation avec les enjeux de soutenabilité. Cependant, en tant que jeune ingénieur, avec une vision idéaliste et optimiste, on peut être tenté de penser que les problèmes de la société doivent être réglés par la technique. Bien qu'elle paraisse plus simple et moins contraignante, cette vision, poussée à l'extrême, n'est pas judicieuse.
Le mode de pensée selon lequel tous les problèmes de la société peuvent être résolus par l'innovation technologique porte un nom. Il s'agit du technosolutionnisme. Il a été popularisé par le chercheur américain Evgeny Morozov dans son ouvrage « Pour tout résoudre, cliquez ici ». Cependant, cette idéologie fait l'objet de nombreuses critiques. Selon le cours de WE01, elle constitue un pari risqué qui mise exclusivement sur l'innovation technique, en négligeant les solutions alternatives. De ce fait, le technosolutionnisme s'inscrit dans une logique à la fois hégémonique et totalitaire, en imposant une vision unique des solutions possibles. Par ailleurs, le technosolutionnisme est critiqué parce qu'il repose sur un pari incertain. En effet, la thèse TAC formule qu'humain et objet technique se co-constituent, c'est-à-dire qu'ils s'influencent mutuellement. De plus, tout projet technique est incertain par nature. Cette thèse implique donc une incertitude quant à l'usage et aux effets réels d'une technologie. Or, le technosolutionnisme tend à ignorer cette incertitude. Il minimise également les possibles effets rebonds liés à l'innovation technologique, c'est-à-dire les conséquences inattendues ou contre-productives provoquées par la surconsommation d'une nouvelle technologie considérée comme plus pratique et efficace. Par exemple, la création d'une voiture consommant moins de carburant pourrait encourager les individus à plus rouler, ce qui n'aurait aucun impact positif sur l'environnement, comme envisagé au départ.
Notre article, écrit par Sylvain Parasi et Sébastien Schulz, s'intitule « Le numérique au service de la transition écologique ». Il a été mis en ligne le 29 mars 2024. Cette revue d'articles aborde la question de la place de la technologie dans la transition écologique. Alors que l'empreinte carbone du numérique ne cesse d'augmenter, il soulève le paradoxe suivant. Comment des technologies qui contribuent aux problèmes écologiques peuvent-elles être utilisées pour y répondre ?
La technologie peut d'abord être utilisée comme un outil de surveillance de l'environnement et de simulation. L'exemple donné dans l'article est celui des microcapteurs de pollution, qui mesurent la présence des polluants dans l'air. L'objectif étant d'inciter les individus à adopter des comportements plus écologiques. Cependant, l'article insiste sur le fait que les capteurs seuls ne suffisent pas à changer les comportements. Les utiliser dans un contexte plus collectif, notamment pour identifier les causes de la pollution, s'avère plus efficace. Ces micro-capteurs de pollution donnent à la population la possibilité de produire leurs propres mesures, de surveiller l'environnement et de confronter les autorités. Cependant, selon Jean-Baptiste Garoc et Sylvain Parasi, les micro-capteurs doivent servir en priorité à sensibiliser le public et non à certifier que des seuils de pollution réglementaires ont été dépassés. Rendre visible l'environnement nécessite des ressources, une interprétation et une structuration collective qui ne découlent pas automatiquement de la technologie. Si les données citoyennes sont parfois contestées par la science réglementaire, elles peuvent néanmoins suffire à ouvrir un dialogue avec les autorités, voire influencer les politiques publiques.
Par utilisation des données récoltées, grâce aux outils de surveillance, les data peuvent servir à optimiser les divers processus. Le premier exemple cité, dans les smart cities, est l'optimisation des flux, par exemple l'eau, l'énergie ou les déchets, et ainsi contrôler par la suite ces flux, et augmenter les réusages ou recyclages. Cependant, bien que la démarche soit bonne, les zones les plus à risque sont souvent des villes qui, par manque de moyens économiques ou d'expertise, ne peuvent pas mettre en place ces technologies, très coûteuses et nécessitent des maintenances régulières. Ensuite, les données récoltées servent à l'optimisation des parcelles agricoles en optimisant les rendements et en réduisant l'utilisation d'intrants chimiques, engrais, pesticides ou fongicides. Cependant, le constat est le même que pour les smart cities, car difficile à mettre en place pour des petites firmes, bien qu'encouragées par les réglementations environnementales nationales et européennes. Une mise en garde est faite sur un potentiel effet rebond de l'utilisation des technologies face aux problèmes environnementaux. L'exemple du covoiturage est cité pour illustrer ce propos. Les plateformes numériques annoncent réduire la quantité de gaz à effet de serre, mais encouragent les usagers à prendre la voiture plutôt que de prendre des moyens de transport moins polluants.
C'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire des tracteurs pilotés par GPS et commandés par des robots et je sais pas quoi ?
D'accord. Voilà, typiquement, tout ce qui va être agriculture de précision, numérique, qui en fait demande une puissance de calcul des serveurs, tout ça. Enfin, bref.
Alors, le digital, je vais déjà vous citer tous les problèmes auxquels il ne répondra pas. Il ne répondra pas à la déspécialisation des bassins agricoles pour cause de manque de pétrole. Il ne répondra pas au stress hydrique qui va nécessiter de déplacer les abricotiers du Roussillon en Bretagne. Il ne répondra pas... déjà, c'est deux problèmes importants. Et par ailleurs, il a besoin d'une économie mondialisée, parce que dans un système digital, vous avez 50 métaux différents. Donc dans une économie qui se démondialise, en plus, votre système digital, vous ne l'aurez pas. Au moment du Covid, vous avez eu une compétition très forte entre les opérateurs télécoms et les constructeurs de voitures pour avoir des microcontrôleurs et d'autres composants électroniques. C'est les opérateurs télécoms qui ont gagné et les chaînes de construction de voitures se sont retrouvées à l'arrêt.
Nous venons d'entendre un extrait de Jean-Marc Jancovici sur la place du numérique dans l'agriculture. Il mentionne même par la suite « Je pense que c'est beaucoup plus résilient d'avoir un certain nombre de gens qui acceptent de continuer à conduire des tracteurs ».
Depuis des années, le numérique prend de plus en plus de place dans nos vies, notamment dans le cadre de la transition écologique. Bien que l'article reconnaisse l'importance que peut avoir la technologie dans ce processus, se reposer uniquement sur celle-ci se relèverait du technosolutionnisme. La revue nous met d'ailleurs en garde sur ce risque. Il est cependant difficile de tracer la limite entre bonne technologie pour la transition écologique et approche technosolutionniste. Par exemple, le cas des smart cities est particulièrement complexe. L'idée d'optimisation des flux peut sembler bénéfique, mais la mise en œuvre difficile de ces dispositifs peut aussi nous faire penser qu'il s'agit d'une forme de technosolutionnisme. Ce paradoxe se ressent dans la position très neutre de l'article, qui donne les avantages et inconvénients de ces technologies de manière très factuelle.
Enfin, face aux limites du high-tech, on peut penser à une autre approche, la low-techisation. Ce processus oriente l'innovation vers des technologies plus durables écologiquement, c'est-à-dire en limitant l'impact sur l'air, l'eau, les sols et la santé humaine, plus responsable socialement, qui vise au bien-être du plus grand nombre, et convivial techniquement, c'est-à-dire simple d'utilisation, tout en respectant autrui et l'environnement. On peut penser à différentes technologies dans ce courant de pensée. le vélo cargo, que l'on aperçoit de plus en plus dans les grandes villes. Ils permettent de transporter plusieurs personnes, idéal pour aller chercher les enfants à l'école. Les cuves de récupération d'eau de pluie, pour arroser son jardin sans pomper les réserves d'eau et des villes, qui en plus est une meilleure alternative que l'eau du robinet, car moins calcaire. Et l'installation de toits végétalisés est également une bonne approche low-tech. Pour isoler thermiquement sa toiture, favoriserait la biodiversité et même pourrait capter un peu de CO2. Vous l'auriez compris, je suis passionné de jardinage et un défenseur de low-techisation.
Merci pour votre intervention. On se rend compte que si on décompose le mot technosolutionnisme, que le mot techno vient avant le mot solution. C'est peut-être un signe que l'on ne prend pas le problème dans le bon ordre. Nous avons donc découvert dans cette émission deux sujets, la réparabilité et l'obsolescence programmée, puis le numérique au service de la transition écologique, avec Martin, Romain, Clément, Elliott et moi-même Stéphane Poinsard. On se retrouve dans une quinzaine de minutes pour une autre intervention. Au revoir à tous.